VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. Bonsoir, nous sommes vendredi 8 décembre 2018, 2017 plutôt, au sommaire. Grosse perte dans les rangs des casques bleus en RDC, 14 soldats onusiens ont été tués dans le Nord Kivu. Nouvelle violence dans le Cameroun anglophone alors que le Nigeria voisin dément tout soutien aux séparatistes. Au Soudan du Sud, plus de 60 morts dans des combats entre clans rivaux. L'ONU s'est déclarée vendredi particulièrement inquiète des risques d'une escalade violente après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au moins 14 casques bleus de la MONUSCO, la force onusienne en République démocratique du Congo, ont été tués, plus de 40 autres blessés dans une attaque dans l'est de la RDC. 5 soldats congolais ont aussi perdu la vie. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, s'est dit choqué par l'attaque odieuse. Il annonce l'envoi de renforts sur place et des évacuations médicales. Il s'agirait d'une attaque des rebelles ougandais de l'ADF contre une base de la MONUSCO. On écoute l'ambassadeur de la France à l'ONU, François Ledâtre.
Dans ce contexte, nous souhaitons réitérer notre plein soutien, bien sûr, à la MONUSCO, exprimer notre profonde sympathie et toutes nos condoléances aux très nombreuses victimes de cette tragédie, exprimer nos pensées à l'égard de leurs proches et réaffirmer plus que jamais notre engagement en soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre en RDC et notre plein et entier soutien à la MONUSCO et à toutes celles et tous ceux qui, dans des conditions difficiles, travaillent en son sein au service de la paix en République démocratique du Congo. La France est donc plus que jamais engagée à leur côté dans ces heures de tristesse.
C'était François Ledâtre, ambassadeur de la France à l'ONU. L'ONU qui tient en ce moment une réunion sur cette attaque dans le Nord Kivu. L'armée camerounaise a été victime d'une autre attaque meurtrière en zone anglophone. La nuit dernière, la compagnie de gendarmerie de Mamfé, à 371 km de Yaoundé, a été prise pour cible. Le bilan fait état d'un gendarme et d'une dizaine d'assaillants tués. Le point avec Emmanuel Jultap.
Les assaillants, affirment les sources de sécurité sous couvert d'anonymat, sont arrivés à Mamfé à bord d'une embarcation motorisée. Ils ont pris pour cible la compagnie de gendarmerie de la ville dans l'optique d'en prendre possession. L'affrontement entre gendarmes et assaillants a été violent et les combats ont duré jusqu'au matin. En témoignent les photos montrant les impacts des balles sur les portes vitrées de la compagnie de gendarmerie de Mamfé, dont VOA Afrique a obtenu copie. Sur ces clichés, on peut voir les corps d'une dizaine de jeunes gens. Un élève gendarme camerounais est tombé sous les balles et 5 soldats blessés lors de l'affrontement. Les assauts contre l'armée camerounaise se multiplient depuis novembre dernier dans les localités du département de la Manyou, voisine au Nigeria. Hier, un émissaire du président de la République fédérale du Nigeria, reçu en audience à Yaoundé par Paul Biya, a déclaré que le Nigeria ne soutenait pas des sécessionnistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Jolita, VOA Afrique.
La nouvelle session du dialogue burundais de sortie de crise ouverte le 28 novembre à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, s'est clôturé aujourd'hui sans accord et également dans la cacophonie. Le médiateur dans cette crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, avait reconnu dans un message lu hier aux participants que l'objectif principal de la session, à savoir les interactions directes entre les participants, n'avait pas été réalisé. La rencontre se tenait sans l'opposition burundaise en exil. La justice sénégalaise a ordonné le renvoi devant un tribunal correctionnel du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de 4 de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics. Le procès est fixé la semaine prochaine, le 14 décembre précisément. Khalifa Sall devra répondre de dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevées sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie. Arrêté depuis le mois de mars, le potentiel adversaire de Macky Sall à la présidentielle de 2019 nie les accusations. Depuis mercredi, plus de 60 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans des combats entre clans rivaux dans le sud du Soudan du Sud. On fait le point avec Ekia Badou.
Les combats ont commencé le 6 décembre à plus de 250 km au nord-ouest de la capitale Juba. Deux clans rivaux de l'ethnie Dinka, les Roup et les Pakam, se sont affrontés pour le partage du bétail. Un nouveau raid a eu lieu à l'aube. Le gouvernement a appelé les communautés de l'État des Western Lakes à cesser de se battre. Le porte-parole du président, Salva Kiir, Atenyiwek Ateny, a indiqué qu'un conseil de sécurité a été convoqué pour évaluer la situation. Dans une lettre signée par Akolpol Kordi, vice-ministre de l'Information, le déploiement de l'armée pour faire cesser les combats est demandé au président. Les communautés pastorales au Soudan du Sud mènent régulièrement des attaques pour voler du bétail et se livrer au pillage, ce qui attise le cycle de représailles. Ces affrontements accentuent le climat d'insécurité dans un pays en proie à une guerre civile depuis décembre 2013. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a relancé la polémique sur le viol dont a été accusé le président Jacob Zuma il y a 11 ans. M. Ramaphosa a affirmé qu'il croyait en la sincérité de la victime présumée. Jacob Zuma avait été acquitté dans cette affaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Jérusalem et en Cisjordanie entre forces israéliennes et palestiniennes qui étaient appelées à un jour de rage pour dénoncer la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Jacques Aristide.
De violentes empoignades ont mis aux prises manifestants palestiniens et policiers israéliens dans et autour de la vieille ville. À Hébron, Bethléem, Jéricho et près de Naplouse, en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont répliqué par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Au jet de pierre de jeunes palestiniens, le Croissant Rouge a indiqué avoir traité un certain nombre de personnes blessées par des projectiles en caoutchouc et pour l'une d'elles, à balles réelles. Plusieurs palestiniens ont par ailleurs été blessés par des tiers israéliens dans la bande de Gaza. Le groupe islamiste Hamas a appelé à une nouvelle intifada. Cette journée de grande prière hebdomadaire pour les musulmans, annoncée comme celle de la mobilisation, a également vu des fidèles protester en Iran, en Malaisie, en Égypte ou en Turquie, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Istanbul et Ankara. Un rendez-vous diplomatique important est attendu à New York, avec une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, où Washington risque d'être confronté à la réprobation du reste de la communauté internationale. La Ligue arabe aussi se réunit demain, samedi, pour apporter une réponse à la décision du président Trump.
L'ONU s'est déclarée particulièrement inquiète des risques d'une escalade violente après la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël lors d'une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, une réunion au cours de laquelle Washington a réaffirmé son engagement pour la paix. Le Conseil de sécurité n'a cependant guère de moyens de contrecarrer l'annonce d'un transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, sont dotés d'un droit de veto sur toute résolution ou déclaration du Conseil de sécurité. Le président russe Vladimir Poutine doit effectuer lundi une visite à Ankara pour des entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, axés sur Jérusalem et la Syrie. Le patronat britannique s'est montré rassuré par l'accord de principe conclu entre Bruxelles et Londres sur les conditions du Brexit. La deuxième phase, celle des discussions commerciales, promet d'être longue et complexe. Anastasie Toudiech.
Londres et Bruxelles ont annoncé la conclusion d'un accord de principe sur les trois dossiers prioritaires de leur séparation, sans toutefois donner de chiffres. Un porte-parole de Downing Street précise que le montant de la facture est estimé à entre 40 et 45 milliards d'euros. D'après Catherine McGuinness, responsable de la City of London Corporation, le plus dur commence. Les responsables britanniques et européens vont devoir plancher sur un accord commercial spécifique. Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a évoqué un traité modelé sur le récent accord avec le Canada. Les négociations pourraient prendre des années. Les milieux d'affaires réclament, en attendant, la promesse d'une période de transition entre le divorce et la mise en place des nouvelles conditions commerciales. Enfin, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a assuré être pleinement mobilisée pour que la région parisienne tire profit du Brexit.
Enfin, l'économie des États-Unis a affiché de solides créations d'emplois en novembre, dépassant les attentes des analystes, tandis que le taux de chômage est resté stable à son plus bas niveau en 17 ans. Selon le ministère du Travail, les nouvelles embauches ont totalisé 228 000 au-dessus des 190 000 escomptés par les analystes. Le taux de chômage, lui, est resté à 4,1%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est avec Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'un crédit de 125 millions de dollars pour soutenir ses efforts pour une croissance durable et renforcer la résilience de l'économie au choc. Ce prêt émane de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement. En mars 2017, la Côte d'Ivoire a aussi bénéficié de 325 millions de dollars pour le projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité. Au Burkina Faso, la Banque Atlantique soutient la mairie de Gaoua pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations locales. Cet accompagnement porté sur un don de matériel de ramassage, de stockage et de transport d'ordures. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'actions d'assainissement de la ville de Gaoua. Le Maroc mobilise 20 millions d'euros pour préserver les ressources en eau. Le groupe BMCE, Bank of Africa, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement ont réuni ce montant. Enfin, aux États-Unis, l'économie a enregistré de solides créations d'emplois en novembre. Les nouvelles embauches ont totalisé 228 000 au-dessus des 190 000 escomptés. C'est notamment dans les secteurs des services aux entreprises, du bâtiment et le secteur manufacturier. Le nombre de chômeurs est resté stable. La réserve fédérale Fed doit relever les taux d'intérêt la semaine prochaine.
La page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
C'est la veille d'armes pour le représentant africain à la Coupe du Monde des clubs.
Et oui, sacré champion d'Afrique le mois dernier, le Wydad Athletic Club de Casablanca est aux Émirats Arabes Unis pour la première fois de son histoire. Les Rouges qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Le WAC entrera directement au stade des quarts de finale. Ce sera demain face au club mexicain de Pachuca. Une victoire leur permettrait d'atteindre les demi-finales de la compétition pour jouer contre les Brésiliens de Grêmio. Avant, pourquoi pas, d'atteindre la finale et d'affronter le Real Madrid de Ronaldo, grand favori du tournoi.
On jouait aussi la Ligue Europa hier soir.
Et le Milan AC qui a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa à Rijeka, 2-0. Le Milan AC qui était assuré de terminer à la première place du groupe D. En déplacement à Vienne pour y défier l'Austria, l'AEK Athènes est resté muet mais a décroché un match nul 0-0, synonyme de qualification. Villarreal n'avait rien à craindre avant la réception du Maccabi Tel Aviv. Défaite 1-0, c'est également la première défaite de la saison en Ligue Europa pour les Espagnols. Arsenal s'est baladé, victoire 6-0 face au Baté Borisov. Par ailleurs, Bilbao a assuré sa qualification chez les Ukrainiens du Zorya Lugansk, 2-0.
Coupe Sekafa au Kenya.
L'Ouganda a chicoté le Soudan du Sud 5-1. Pas de match en revanche entre le Zimbabwe et le Burundi en raison, vous le savez, du forfait des Zimbabwéens.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Rockets de Houston continuent de survoler la conférence Ouest. Ils ont décroché hier leur 8e victoire consécutive en écœurant Utah. Le score 112-100 grâce encore une fois à James Harden. À Philadelphie, le duel très spectaculaire a tourné à l'avantage des Lakers qui l'emportent 107-104. Enfin, le Thunder d'Oklahoma City s'est incliné à Mexico lors d'un match exceptionnellement délocalisé face à Brooklyn 95-100.
Merci Nicolas.
Le
au monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Cameroun, l'écrivain Patrice Nganan a été arrêté mercredi par la police à l'aéroport de Douala alors qu'il devait embarquer pour Harare. L'écrivain qui réside aux États-Unis terminait un séjour pendant lequel il s'est notamment rendu dans les régions anglophones et avait publié un article critique du régime. Pour en savoir plus, Morgane Guirier a joint son avocat, Maître Emmanuel Sim.
En ce moment, mon client se trouve dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé. Il y est gardé en vue depuis deux jours, sauf que pendant deux jours, la police judiciaire n'a pas communiqué ni à sa famille ni à son avocat le lieu de son incarcération. Ce n'est qu'aujourd'hui, au cours de 14 heures, qu'on a fini par le retrouver, dont je ne peux plus lui parler. Il est effectivement dans les locaux de la police judiciaire et sera entendu demain à 10 heures.
Pourquoi est-il détenu ?
Il lui a reproché d'avoir outragé le président de la République du Cameroun par un post qu'il a fait dans son mur Facebook. Il aurait, selon la police, fait des diffamations et des menaces contre le président de la République. Et il risque de 1 an à 5 ans de prison et de 20 000 francs à 2 millions de francs d'amende CSA. Donc, une infraction la plus grave, elle est basée simplement sur la publication qu'il a faite comme enseignant, comme intellectuel, dans sa page Facebook et rien d'autre.
Mais que comportait cette publication ?
Alors, dans la publication, M. Nganan critiquait simplement la gestion faite par le régime de Yaoundé de la crise anglophone. Il estimait qu'on aurait pu avoir une meilleure attitude par rapport à cette crise-là. Et il estimait également que le président de la République du Cameroun, en gérant de cette manière, n'a plus compétence pour continuer à diriger le Cameroun. C'est pour cela que il est aujourd'hui poursuivi. Dès demain matin à 10h, il sera entendu et il va présenter ses arguments et sa défense devant les autorités de la police judiciaire de Yaoundé.
Quelles sont ses conditions de détention ?
Alors, il est gardé à vue dans un bureau de la police judiciaire et il m'a dit qu'il a passé trois jours sans se laver parce qu'évidemment, personne ne savait où il était, mais je viens de lui faire apporter du nécessaire pour sa toilette. Il n'a pas été torturé, il n'a pas eu de violence physique contre lui.
C'était Maître Emmanuel Sim, avocat au Cameroun. On passe au Gabon. Le parti présidentiel gabonais, le PDG, a ouvert ce vendredi son congrès ordinaire sur le thème de la régénération. Le PDG traverse des dissensions internes et tente de se remettre en selle plus d'un an après l'élection présidentielle mouvementée du mois d'août 2016. Les travaux du 11e congrès ordinaire vont se dérouler en trois jours et devront aboutir à l'élection du nouveau secrétaire général du parti. Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Auguste Eyene Essono, analyste politique.
Je dois vous avouer que cette actualité ne suscite pas un grand engouement.
Pourquoi ?
Un congrès organisé par un parti qui est au gouvernement depuis 50 ans ne peut pas susciter un intérêt majeur.
Professeur, vous le disiez tantôt, est-ce qu'on peut dire que cette formation politique du PDG est essoufflée après 50 ans de gestion du pouvoir ?
Je pense qu'il est contradictoire de vouloir régénérer un parti alors que ce parti échoue à gouverner un pays qui a vu ou qui dispose d'autant de ressources. Générer pour quel objectif ? C'est ça la question principale.
Professeur, on a envie de vous retourner la question.
Lorsque des gens ne sont pas éduqués à la fois à la question de la démocratie et à la question de la sauvegarde de l'intérêt général dans un pays, un terme tel que régénérer ne peut pas avoir une grande importance. Si l'on veut régénérer les ressources d'un parti juste pour aller à la sauvegarde des intérêts particuliers des gens qui dirigent ce parti ou des militants de ce parti, je pense à ce moment-là que régénérer un parti veut dire assembler, renouveler des ressources, renouveler les ressources d'un parti en tant que ce parti est utile pour l'avenir d'un pays. Alors, on régénère le PDG pour quel objectif ? Juste pour que ce parti continue à alimenter le mal à la racine, le mal qui détruit le patrimoine et les ressources de notre pays.
Professeur, il y a des élections législatives en vue en avril 2018.
Oui, mais attendez, en vue de se ressourcer dans le but de gagner une élection. Il faut déjà que dans ce pays, on accepte de respecter les règles. Un parti dont le projet est de saborder tout ce qui peut faire que dans une société, les gens vivent ensemble. En quoi ce parti peut se targuer de dire qu'il se régénère en vue d'aller gagner une élection? Gagner quelle élection? On gagne une élection lorsqu'on sait respecter les règles.
Des membres historiques du PDG, comme l'ancien secrétaire général Faustin Boukoumbi, entre autres, ont quitté le parti. Peut-on parler de dissension interne?
C'est pire qu'un dysfonctionnement interne. En fait, le PDG est aujourd'hui un mirage. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le PDG n'existe plus en dehors du folklore. Des individus, non pas qui a la cause du PDG, mais des individus qui n'ont à cœur que de se battre pour des intérêts, pour de vils intérêts particuliers, de véritables problèmes qui engagent l'avenir d'une nation ne sont pas posés.
Cela pourrait profiter à l'opposition.
La seule chose qui puisse profiter à l'opposition est que l'on s'accorde définitivement dans ce pays que la règle du vote existe. Il faut être capable de s'incliner face au verdict des urnes d'une part, et d'autre part, accepter le principe de l'alternance dans ce pays.
C'était le professeur Auguste Eyene Essono, analyste politique gabonais.
Retrouvez tous les jours sur Radio Génération Nouvelle l'équipe VOA Afrique et vos programmes favoris. Le monde aujourd'hui, à votre avis, RM Show et votre leçon d'anglais sur 97.4 FM à Libreville. Radio Génération Nouvelle, station partenaire de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria a annulé la nomination d'un nouveau procureur général proposé par le président Jacob Zuma. Sean Abrahams est considéré comme un proche du président. Ce tribunal a aussi interdit au chef de l'État de nommer son successeur en raison d'un conflit d'intérêts. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Johannesburg le professeur à l'Institut de droit international et comparé. Il s'agit d'André Thomas.
C'est un peu extraordinaire. Cette affaire, déjà dans le temps, en 2015, a été mise en litige par certaines NGO intéressées dans l'affaire et par le parti de l'opposition, le Parti démocrate. Maintenant, finalement, après 2 ans, nous avons un jugement. Zuma a perdu, un procureur général qui est sympathique pour lui. Et il risque très fortement que les prosecutions avec à peu près 700 charges de fraude et de vol sera réinstituées contre lui. C'est un cas un peu sérieux, sauf que évidemment Zuma va faire un appel, l'appel à la Cour suprême, et après une décision de la Cour suprême, il pourra encore faire l'appel constitutionnel à la Cour constitutionnelle, et tout ça fera gagner assez de temps pour peut-être régler son futur hors du gouvernement.
C'est donc une procédure normale, mais c'est quand même inédit de refuser une nomination d'un président de la République, c'est son droit constitutionnel.
Les critiques du gouvernement, ils se réjouissent, il y a toute une euphorie dans la presse, mais l'activisme des juges en Afrique du Sud devient de plus en plus agressif. Il y a quelques mois que la même cour régionale de Gauteng avait prononcé un jugement qui mettait en cause la nomination d'un nouveau ministre des Finances, encore une fois un privilège normal du chef de l'exécutif de n'importe quel pays, de choisir et de nominer des ministres. La Cour constitutionnelle aura des difficultés d'être d'accord avec cette Cour régionale parce qu'évidemment la séparation des pouvoirs dans un État est fondamentale et les juges ne peuvent pas commencer à définir les décisions qu'un gouvernement peut prendre et ne peut pas prendre.
Dans une semaine, l'ANC désigne le successeur de Jacob Zuma et cette haute cour de Pretoria a ordonné à Cyril Ramaphosa de procéder à la nomination d'un nouveau procureur dans les 60 jours. Est-ce que ça renforce les pouvoirs de Ramaphosa et de le voir remporter la bataille contre Dlamini Zuma?
C'est un litige dangereux et conflictueux, mais le président Zuma, c'est-à-dire les avocats qui vont le représenter, peuvent, dans leur appel, s'ils le font très vite, ils peuvent demander à la Cour suprême de suspendre l'effet exécutif de cette décision qui a été prise aujourd'hui. Je suis sûr que c'est ce qu'ils feront, et ainsi on ne verra pas si prochainement la nomination d'un nouveau procureur général, et la vie continuera pour encore bien des mois, plutôt normal. La conférence de l'ANC va faire son choix. Les délégués, jusqu'à présent, ont donné une majorité entre les 12 à 15% des votes de nomination au vice-président sur Ramaphosa, mais le vote pendant le Congrès sera un vote secret, alors il pourra y avoir encore des surprises.
C'était André Thomas Hausson de l'Institut de droit international et comparé en Afrique du Sud. Ce vendredi, jour de la grande prière chez les musulmans, il y a eu beaucoup de manifestations dans plusieurs pays contre la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Que représente Jérusalem au sein de l'islam? Idriss Fall a joint Martha Kanté de la mosquée du Point E à Dakar.
Jérusalem, le Coran ne cite jamais le terme de Jérusalem en tant que tel, mais cite le Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine, en termes de lieu de prière. Il y a maintenant des propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui expliquent que c'est un lieu où le prophète Jacob avait construit une mosquée. Et le Coran cite clairement ce qu'on appelle le voyage nocturne du prophète, donc ce voyage miraculeux qui s'est fait de la Mecque vers le Masjid al-Aqsa, donc ce lieu de prière à Jérusalem, et de Jérusalem au ciel. Donc ça montre encore l'importance symbolique. Aussi, le prophète a indiqué que le lieu de Jérusalem, c'est un lieu où la prière vaut 250 fois la prière faite dans les mosquées ordinaires.
Historiquement, même avant de se tourner vers la Kaaba pour leur prière, exactement, les premiers musulmans se tournaient vers Al-Quds.
Mais parfaitement, ça a montré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était venu comme le couronnement de l'islam, c'est-à-dire l'islam depuis Abraham. C'était la continuité. Effectivement, la première Qibla a été vers Masjid al-Aqsa, donc vers Jérusalem. C'est quand les Juifs ont refusé le message du prophète que le prophète a reçu l'ordre divin de changer de direction. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, si vous allez à Médine, on vous montrera la mosquée où il y a ces deux directions encastrées dans la même mosquée. C'était le moment de la rupture théologique entre l'islam incarné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le refus des fils d'Israël de considérer Mohammed comme la continuité du message d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Ismaël.
Près de 2000 ans après, le président Trump décide de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Vous, en tant que musulman, vos réactions?
Moi, je considère simplement que c'est une décision qui est catastrophique. Il faut maintenant comprendre les motivations de Trump. Sur le plan politique, il aura beaucoup de problèmes avec les pays arabo-musulmans. Qu'est-ce qu'il a gagné en prenant cette décision? D'abord, pour essayer d'externaliser les problèmes internes très sérieux qu'il a actuellement aux États-Unis avec le problème de l'implication de son entourage dans les magouilles, les trucs avec les Russes, etc., etc. Et aussi, je pense que c'est très important la dimension purement religieuse. C'est-à-dire qu'il est sous influence des évangélistes messianistes qui sont dans son entourage très proche, comme son gendre qui est juif orthodoxe et qui a converti sa fille, le second numéro 2 ou numéro 3, je crois, qui aussi est très proche des milieux évangélistes qui ont beaucoup soutenu Trump. Donc la rançon de ce soutien, c'est qu'aujourd'hui, qui donne le gage, qui sera loyal, c'est un exutoire pour détourner les gens. Mais ça va être très compliqué après.
C'était l'imam sénégalais Martha Kanté, joint à Dakar.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Michel Joseph qui l'a réalisé. À la console, on avait Cyprien Franklin, présentation Abdourahmania. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com. pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.